On voit à Marseille des affiches, en veux-tu, en voilà, l'opération qui change Marseille. Euroméditerranée a eu 20 ans pour changer Marseille centre et nord sur 480 hectares. C'est Euromed 1 et Euromed 2. La Chambre régionale des comptes vient de publier un rapport sur Euromed sur la période 2006-2015 sur ce qu'elle appelle, elle, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, le nom officiel, et nous l'appellerons bien sûr Euromed pour cet entretien avec nous. Louis Valerno, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes le président de cette chambre régionale. Pouvez-vous d'abord nous dire qu'est-ce que c'est Euromed?
C'est une énorme opération de développement économique et de réaménagement urbain du cœur de Marseille, en fait, hein, donc la zone située au nord du vieux port, entre le grand port maritime de Marseille et la gare Saint-Charles. On parle d'une opération donc sur 35 ans, hein, puisqu'elle a démarré en 1995, elle doit s'achever en 2030, dont le budget total est supérieur à 1,6 milliard d'euros, dont un peu moins de 700 millions d'euros de dépenses publiques.
Alors, quand on voit tellement d'argent, vous vérifiez justement à quoi a été utilisé cet argent. La gestion, vous reconnaissez qu'elle a été bonne, en grande partie, mais il y a quelques éléments, lesquels?
Alors en fait, le contrôle a comporté deux volets. L'examen de la gestion de l'établissement public qui porte ce très gros projet. On a regardé tout simplement les conditions de gestion des ressources humaines de l'établissement public. On a regardé les conditions de passation des marchés que met en œuvre cette équipe. Et sous cet angle-là, le contrôle n'a pas mis en lumière d'irrégularités majeures, même s'il y a quand même des marges de progrès. Mais l'essentiel du travail réalisé par la Chambre a consisté en un bilan d'étape de l'opération elle-même, c'est-à-dire de la conduite de cette très ambitieuse opération de développement économique et de réaménagement urbain des 480 hectares d'Euroméditerranée.
Alors justement, on voit des programmes immobiliers qui parfois créent des incertitudes. Par exemple, il peut se faire que Euromed compte sur un promoteur qui jette finalement l'éponge. On voit cette incertitude sur Euromed 1 au niveau des docks du Sud occupés aujourd'hui par, on le sait, l'association Latinissimo. Il y a eu un projet de piscine privée d'ailleurs, il a été abandonné, donc là on est en pleine incertitude.
Alors effectivement, inévitablement, certains projets souffrent d'incertitudes de ce type. Le sujet pour Euroméditerranée, c'est de maintenir l'équilibre d'ensemble du financement de l'opération et donc, d'une façon ou d'une autre, de compenser la perte de recettes qu'induirait la non-réalisation du projet initialement prévu. Donc ça, concrètement, ça peut signifier, a priori, il vaut mieux l'éviter, une augmentation de subventions publiques ou bien trouver des recettes complémentaires en augmentant les prix de cession réalisés dans le cadre d'autres volet du programme.
Alors, quand on voit justement cette importance de récupérer des recettes commerciales des promoteurs, eh bien, on peut s'interroger sur le fait que les terrasses du port, qui est quand même une grande réalisation commerciale, qui réalise un beau succès de fréquentation, soient en fait en dehors de tout.
Effectivement, alors je reconnais un petit peu facile, entre guillemets, de la part de la Chambre régionale des comptes de réécrire l'histoire, mais là, de toute évidence, il y a eu une erreur, alors je ne sais pas s'il faut la qualifier de stratégique, mais il y a eu une erreur importante qui a consisté à ne pas inclure dans le périmètre d'Euroméditerranée le terrain d'assiette des terrasses du port, et qui a eu pour conséquence, j'allais dire sonnante et trébuchante, le fait que le promoteur ne s'est pas acquitté de ce qu'on appelle d'une participation constructeur, qui est en fait une participation payée par tous les constructeurs qui réalisent des opérations dans le périmètre d'Euroméditerranée pour le financement des équipements publics donc réalisés sur ce périmètre. Là, en l'occurrence, on parle d'une perte de recettes que la Chambre a évaluée à environ 13 millions d'euros et qui est quand même d'autant plus frappante que quand on se promène sur le site, on voit bien les équipements publics dont bénéficient les terrasses du port.
Oui, un boulevard.
Par exemple, oui.
Votre rapport relève une autre anomalie, des terrains qui sont cédés à des prix préférentiels, soit quand même plus de 23 millions d'euros de perdus. Des exemples?
Alors, en fait, sur le principe, la Chambre ne remet évidemment pas en cause la décision d'Euroméditerranée pour doter la zone d'équipements structurants ou symboliques, de faire bénéficier les opérateurs concernés de ristourne, entre guillemets, enfin, de réduction de prix. On comprend très bien l'intérêt qui s'attache à ce qu'un musée s'installe dans la zone ou qu'un hôpital soit réalisé. On a plus de mal à comprendre une réduction de prix consentie au bénéfice d'un opérateur économique classique intervenant dans le champ concurrentiel qu'est un exploitant de cinéma. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a quelques exemples de pertes de recettes entre guillemets induites par cette stratégie que le rapport met en évidence, et notamment pour reprendre l'exemple du multiplex. La réduction de prix consentie par Euroméditerranée a suscité une perte que la Chambre a évaluée à environ 3 millions d'euros. Dans le cas du MUCEM, effectivement, la Chambre a constaté que le prix consenti était inférieur, notamment à celui qu'il a été pour le projet voisin qui est la Villa Méditerranée. Mais encore une fois, on voit bien l'intérêt qui s'attache à ce que la zone d'aménagement soit dotée d'un musée. Le sujet est de ne pas consentir des remises disproportionnées.
Alors enfin, Euromed 1, bien, c'est fini. Maintenant, c'est Euromed 2, mais il va y avoir des différences, et notamment sur l'importance des subventions publiques.
Alors là aussi, on parle d'un projet extrêmement ambitieux. Hein. C'est la réalisation à horizon 2030 d'une écocité qui doit accueillir 30 000 habitants. L'équilibre de financement d'Euromed 2 est sensiblement différent de celui d'Euromed 1 en ce qu'il comportera une part moins importante de subventions, comme vous l'avez dit à l'instant. Alors évidemment, ça n'est pas critiquable en soi. Ce que la Chambre constate juste, c'est que ça soumet la réalisation du projet à davantage d'aléas lié au fait que les recettes commerciales sont moins, entre guillemets, sûres que des subventions publiques par rapport à Euromed 1. Ensuite, ce que la Chambre a également constaté, c'est que les prévisions de cessions immobilières qui sous-tendent le plan de financement d'Euromed 2 sont quand même assez ambitieuses, puisqu'elles ont été établies sur la base de prix que la Chambre considère comme assez élevés. Donc l'aléa que je décrivais à l'instant est d'autant plus important.
Oui, alors pour tout à fait finir, on parle toujours de 1 euro justement de financement public investi qui attirerait beaucoup plus d'euros de financement privé. Qu'en est-il ?
Alors ça, c'est extrêmement difficile à évaluer tant que le projet n'est pas terminé en fait. On connaîtra la vérité des prix, si je puis dire, dans quelques années ou dizaines d'années. Mais effectivement, la Chambre a essayé de porter une appréciation sur le bien fondé des estimations faites à cet égard par Euroméditerranée, et il lui a semblé que, donc ces estimations de l'effet levier finalement, qu'elles étaient probablement un petit peu ambitieuses.